Salut à toi, camarade. Cette émission censurée avec le DAF derrière le micral, à la jacquance et le mat, derrière les petards, à la technique. On est en direct, comme d'hab, à l'antenne d'RCN, Radio Caraïbe Nancy, sur le 90.7 on the ondes, ainsi que sur le www.rcn-radio.org on the web, et oui. Et ce soir, chers auditeurs, chères auditeuses, suite directe hein, de la semaine dernière, on avait convenu ça ensemble à la fin de la dernière émission. On continue donc notre magnifique petit voyage dans le temps, cette fois-ci de 1979 à 1983, donc il y a 30 piges, hein, une émission toujours consacrée autour de l'année 83 pour en finir avec 2013, et ce qui ravira, j'espère, les plus quadragénaires ainsi que les plus quinquagénaires d'entre vous, chers terzeteuses, avec une nouvelle sélection de groupes ce soir à découvrir ou redécouvrir pour les plus mûrs d'entre vous, bien sûr. Et c'est parti. C'est parti, alors, suite du précédent épisode. Pour bien comprendre, on va se faire un petit peu de blabla hein, encore ce soir, comme la semaine dernière. J'espère un peu moins, mais bon, voilà. Pour bien comprendre comment le grand tournant alternatif de 83 a pu avoir lieu, il faut revenir un tant soit peu sur les raisons qui l'ont provoqué. Ainsi, comme je le disais la semaine dernière, après une récréation de gauche effective d'à peine 2 ans, Mitterrand en sonne la fin en appliquant une politique social-démocrate mollassonne, matinée d'ultralibéralisme conquérant, la vaseline pour mieux faire passer la pilule amère du pouvoir par l'argent-loi, non plus l'argent-loi, l'argent-roi, veuille-je dire, non plus par le peuple souverain. La guerre froide, la Troisième Guerre mondiale, bat toujours son plein sur le grand échiquier mondial, avec son lot de conflits et de bras de fer. Pour n'en citer que 2 exemples, l'occupation de l'Afghanistan par l'URSS d'un côté du mur et le soutien inconditionnel au régime d'apartheid en Afrique du Sud de l'autre. Mais, grande nouveauté, cette guerre froide rentre inexorablement dans sa dimension économique et financière provoquée par le camp capitaliste sous une surenchère de pognon, de consommation et de propagande afin de l'emporter sur le régime post-stalinien qui n'y survivra pas. En France, en 1983, c'est donc le début du règne de l'austérité, le, entre guillemets, hein, notez bien, le tournant de la rigueur. Pour pallier à la crise, le programme commun entre les socialistes et les communistes est abandonné, le mouvement syndical anesthésié, les luttes sociales marginalisées ou récupérées, l'industrie sidérurgique démantelée, les prix et les salaires bloqués. Résultat logique des courses, l'inflation progresse, le chômage explose, les crimes racistes et les bavures policières contre les jeunes d'origine arabe en particulier, sont pléthores, il est très joli ce mot-là, pléthores, particulièrement pendant l'été 83 qui sera bel et bien meurtrier, avec notamment l'assassinat d'un môme de 9 ans abattu à la Courneuve d'une balle de 22 longs rifles tirée par un voisin. Ce qui inspirera d'ailleurs certainement une chanson au Beru. Et pendant que Toumi Djaïdja, grièvement blessé au ventre par balle réelle, oui oui messieurs, dames, la police tirait à balle réelle à l'époque sur les émeutiers ou les manifestants. Dans le ventre, balle réelle, tirée par un flic lors des émeutes des Minguettes de juin. Juin 83, hein, on est toujours dans la même année, lance l'idée, donc Toumi Djaïdja, lance l'idée de la marche pacifique pour l'égalité et contre le racisme, dont on parlait déjà la semaine dernière, qui partira de Marseille en octobre avec une minuscule quarantaine de marcheurs, pour terminer à Paris en décembre par un cortège joyeux et coloré réunissant 100 000 manifestants. Donc pendant ce temps-là, Jean-Pierre Stirbois, secrétaire général et numéro 2 du Front National, remporte en septembre le premier tour des élections municipales partielles à Dreux, ou la main, c'est le cas de le dire, avec 17% des suffrages, score jamais encore atteint par le FN, et deviendra ainsi, sur une liste commune RPR-UDF-FN, le tout premier frontiste, à participer à la cogestion d'une ville en tant qu'adjoint à la sécurité. Merci la droite. Mais Charteurs, charteuses, revenons plutôt à nos moutons quepons. Comme une traînée de poudre, on assiste à l'autonomisation de la scène punk émergente qui commence à créer sa propre identité en s'affranchissant du punk anglais, à s'imprégner de tous les styles musicaux populaires, des plus folkloriques aux plus innovants, à intervenir dans tous les domaines artistiques, à développer ses propres réseaux à Paris comme en province, à prôner ouvertement ses valeurs contestataires et libertaires, à se rapprocher de la mouvance politique anarchiste et autonome. En toute spontanéité, la nature détestant le vide, Les trous béants sont comblés, les brèches sont largement ouvertes pour des groupes de plus en plus nombreux qui vont s'y engouffrer en bloc et à toute vitesse. Bref, le virus se propage inexorablement. Les éléments qui vont y contribuer sont simples mais multiples. Explication. D'abord, par les disquaires, encore indépendants, qui vont apporter directement d'Angleterre et des États-Unis tout un tas de vinyles largement copiés et partagés par le biais de la cassette audio, support privilégié de la diffusion de la musique à cette époque. Ensuite, par la légalisation des radios pirates, qui vont pouvoir devenir associatives et émettre librement sur la bande FM, en démocratisant ainsi l'accès au plus grand nombre, puis par la profusion de très nombreux fanzines, faits main, à l'arrache et de manière totalement artisanale, avec des ciseaux et de la colle. Le tout pour pallier à l'ignorance cynique de la presse musicale française, qui ne jure que par les Rolling Stones et autres consorts vieillissants auxquels la jeunesse ne s'identifie plus du tout. Également par l'apparition des squats, véritable vivier d'autonomie politique et artistique, essentiellement dans le 19e et 20e arrondissement parisien, qui vont accueillir, avant de disparaître sous le coup d'expulsion systématique, tout ce petit microcosme punk, constitué de bandes de jeunes, réunis par quartier, bande des Halles ou du Luxembourg par exemple, puis par affinité musicale, bande de punk, skinhead, pas encore récupéré et gangréné par les néo-nazis à l'époque, Zoulou, Rasta, Rocker, Psychobilly, etc. Ce sont donc les squats qui vont tenir un rôle majeur et salvateur dans la création puis la fédération d'une scène hexagonale cloisonnée entre des MJC mal adaptés pour les concerts et quelques rares salles où la bière est trop chère et la sécu trop violente. Enfin, dernier élément, et pas des moindres, c'est tout juste à cette époque que vont se créer des labels totalement indépendants de l'industrie musicale, d'abord parisiens, avant d'essaimer partout ailleurs, pour répondre par un magnifique et gigantesque bras d'honneur au mépris flagrant des grandes maisons de disques, pas encore majors mondialisées, qui feignent d'en ignorer l'émergence, se refusent à en comprendre les tenants comme les aboutissants et qui n'ont qu'un seul but, se faire du fric en découvrant le nouveau téléphone, c'est-à-dire du rock politiquement correct, bien propre et gentil, qui rassure les parents, les grands-mères et surtout qui casse pas trois pattes à un canard concernant la radicalité et la profondeur des idées. Et c'est tant mieux, parce que face à cet aveuglement dédaigneux et arrogant du show business et de ses sbires, les réponses de tous ces labels, de tous ces groupes, et surtout de ces labels, n'en seront que plus magistrales. Aucune mise en concurrence des labels entre eux, mais bel et bien un soutien collectif et une entraide partagée autour de valeurs communes. Une théorisation et une conscientisation des structures naissantes, une politique de petit prix abordable pour tout le monde, une volonté sincère et réelle de mettre en adéquation l'attitude, le fonctionnement, la musique et les paroles, un mode de fonctionnement radicalement aux antipodes de l'industrie du disque conventionnel. Bref, l'antithèse parfaite du showbiz sur des critères musicaux, humains, idéologiques et contre-culturels, le mot est important, le tout à coup de compilation pleine de groupes différents, de splits, la face A pour un groupe, la face B pour un autre, de cassettes live, etc. Les idées novatrices ne manquent pas et la suite de ces premiers labels parisiens de ces labels parisiens vont naître une kyrielle d'autres sur tout le territoire, de Toulouse au Havre en passant par Blois et Orléans. Mais en attendant l'explosion totale et inexorable du mouvement alternatif, le système D est toujours de mise et le do-it-yourself est roi. C'est l'histoire qu'on va encore partager ensemble pendant cette toute petite heure à l'écoute de témoignages directs des acteurs des groupes encore pionniers de l'époque et surtout de leurs morceaux d'anthologie afin de bien se remettre dans le contexte. Alors musique, bordel, après autant de blabla. Ça, c'est du son originel, cadavre. C'est dingue, il m'a fallu du temps pour la trouver celle-là. c'est du rapide, les amis. Le morceau ne dure pas bien longtemps, 1 minute 31 pour être précis. Mais c'est du son original cadavre, les amis. C'est les cadavres, oui, aussi surprenant que ça puisse paraître. On vient d'écouter un des tout premiers morceaux enregistrés par les cadavres. Le morceau, je sais pas si vous l'avez entendu, parce que le son est quand même un peu poucrave, hein, faut bien avouer. Mais c'est du son d'époque aussi. Le morceau s'appelle « Trottecol dans ma tête ». C'est bien un bon morceau, un bon titre de morcif cadavérien. Donc, des cadavres issus de leur premier 45 tours. Alors, comme je vous l'expliquais pendant cette longue introduction didactique, c'est un split qu'ils ont fait avec les Vatican. Un autre groupe. Donc, les cadavres remplissaient la face A, Vatican la face B. Il est sorti ce 45 tours introuvable maintenant, sauf en téléchargement, chez FLVM, ce qui veut dire « Faites-le vous-même » en 82. C'est donc le premier maxi 45 tours EP des cadavres. 7 titres en tout, donc 4 pour les cadavres, en split avec Vatican, comme je vous l'ai dit, sorti à 2000 exemplaires. Alors, les cadavres, qui étaient, qui sont encore les cadavres? Puisque c'est un groupe qui s'est formé en 79, donc on reste pile poil dans notre chronologie. Séparation en 84, et puis reformation de 86 à 96, puis toute petite reformation en 2011, et dernière reformation, reformation en 2009 jusqu'à aujourd'hui, puisque hein, vous le savez comme moi, si vous avez écouté le Danton Cru, du début de cette année, les cadavres ont sorti encore du nouveau son en 2013. Donc, les cadavres, c'est qui ? Ils sont de Paris, mais pas de Metz. La bonne blague, on va se raconter ça tout à l'heure. Les cadavres, c'est évidemment Vérole dès l'origine, au chant et au texte. À l'époque, hein, ça c'est vraiment la première formation des cadavres. Guitare rythmique, c'est Crapaud. Guitare solo, Christophe, à la basse, Magouille, et à la batterie, Gilles. Alors, toujours issu, hein, je cite mes sources, toutes ces petites interviews, hormis concernant Varum Joe, on verra ça tout à l'heure, c'est issu du, où est-ce que je l'ai noté sur mes pattes de mouche, évidemment, Nyark Nyark, le bouquin sur les fragments des scènes punk et rock alternatif en France de 76 à 89, écrit et compulsé par Arnaud Rootboy chez FZM, Folklore de la Zone Mondiale, le label des Bérus, sorti en 2007. Donc Arnaud Rootboy a retrouvé tous les acteurs de cette scène de l'époque, de 76 à 89. Donc tout ça, c'est des extraits d'interviews que j'ai copié-collé pour vous. Et vraiment pour qu'on se remette dans le contexte avec des témoignages directs des acteurs de l'époque. Donc voilà, Dixit, Vérole, j'ouvre les guillemets, je cite. J'ai découvert le punk en 77 par le grand frère d'un copain qui allait souvent à Londres. Il m'avait fait écouter des cassettes, notamment les Sex Pistols et Neurose des Damned. Jusque-là, je me foutais complètement de la musique, j'ai tout de suite plongé dedans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait rien, pas de fanzine, que des journaux à la con. Par contre, il y avait des disquaires, on découvrait forcément le punk par hasard, vu qu'il n'y avait rien. On a commencé en 79, 80, au départ c'était un groupe à la petite semaine, on faisait des reprises, on répétait dans un garage en banlieue. On venait de plusieurs groupes, un groupe de banlieue qui s'appelait les Parias, et nous, les Cadavres. On a eu l'opportunité de piquer tout le matos, en un coup, dans une fête. C'est comme ça qu'a débuté le groupe. Au départ, je voulais être gratteux. J'ai finalement atterri au chant, ça a commencé comme ça. Toi, tu vas être guitariste, toi, batteur. On savait pas ce qu'on allait faire. C'était plus un plan pour le samedi après-midi. Tout le monde venait apporter quelque chose et on passait la journée à faire de la musique. On savait même pas qu'un jour, on ferait un concert. On avait juste envie de faire quelque chose. Par hasard, on avait deux potes qui habitaient à Orsay, dans le 91, et on avait un garage pour jouer, ce qui est plus pratique qu'à Paris. Du coup, au début, on a beaucoup tourné en banlieue sud. Notre premier concert, c'était la MJC de Bure-sur-Yvette. Ensuite, on a joué au Gibus. On a vachement fait de plans, MJC, de banlieue. On jouait partout où on nous le proposait, mais on a dû mettre 4 ans avant de savoir jouer. Et il y a deux périodes dans les cadavres. Il y a ce qu'on appelle les anciens cadavres, c'est le groupe qui va de 79 à 83-84, et ensuite le groupe reprend en 86. Là, il n'y avait plus que moi de la formation originale, c'est cette formation qui a fait les disques, les concerts. Après le premier groupe, à part un 45 tours et quelques concerts, on n'a pas fait grand-chose. C'était un maxi 45 tours, autoproduit avec le groupe Vatican en face B. On avait payé nous-mêmes, le studio, une journée pour enregistrer les deux groupes. La pochette a été faite par un pote qui n'y connaissait pas grand-chose. On en avait sorti 1000, qu'on a tous vendus, puis de fil en aiguille, quelque chose comme 3500, ce qui pour un groupe sans promo est plutôt bien. On avait un son pourri, comme la majorité des groupes français de l'époque. Tous les groupes à l'époque, s'ils n'allaient pas enregistrer en Angleterre, avaient un son pourri. En France, on a une tradition de variété. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut faire de la chanson française. Collée à une éthique définie par les médias. Les Cadavres ont toujours été un groupe chiant à placer. On ne s'est jamais cassé la tête avec les étiquettes. Pour beaucoup de gens, l'alternatif, ça correspondait à un état festif. Nous, on n'était pas festifs du tout. Après, il y avait les groupes anarcho-punk qui avaient vraiment une démarche politique affirmée. On n'était pas vraiment là-dedans, mais en même temps, on avait quand même des revendications. Un coup, on était classé comme groupe alternatif, un coup street punk, un coup rock indépendant, radical. Au bout d'un moment, on en a eu marre, on s'est créé notre propre étiquette, on a dit qu'on faisait du punk rock messin. Alors, au début, c'est parti d'une connerie, punk rock messin. On vient pas du tout de Metz, en fait. Et ensuite, on se revendiquait comme tel, on avait délimité le contexte. Le concept. Si être politique, c'est refuser le système dans lequel on est né, on était un groupe politique. Si c'était être affilié à un groupe ou un parti politique, là, on l'était pas. C'est pour ça qu'on avait choisi comme symbole le triangle noir. Le triangle noir, c'était celui des asociaux dans les camps de concentration. On voulait être affilié à rien, sauf à nous-mêmes. On faisait de la politique parce qu'on luttait contre quelque chose qui nous oppressait, mais pas avec les moyens d'un parti politique. Si on s'était senti plus politique, on aurait pris le triangle rouge. Mais on était en réaction. Nous, on construisait rien, on était dans la destruction. Dans la non-gestion désastreuse d'une carrière de groupe, on était au top. On signait des contrats sans savoir ce qu'ils disaient. On faisait des concerts avec des cachets débiles. On était plutôt un club de vacances de cas sociaux qui faisait de la musique. On n'a jamais essayé de s'adapter. On aurait pu essayer de coller à l'esprit de l'alternatif, à la tendance du moment, mais on a continué à faire notre truc sans s'occuper d'un monde qui tournait mal sans nous. Nous, on s'est jamais vraiment reconnus dans le rock alternatif. On faisait du punk rock. Un point, c'est tout. L'idée, c'était de faire quelque chose qui nous correspondait. Le terme ne me dérangeait pas, mais ça me parlait pas plus que ça. On était tous là-dedans, on voulait tous créer quelque chose et proposer une contre-culture. L'idée, c'était de revenir aux bases du rock, où tu mets tes tripes sur la table et pas un produit pour faire plaisir à une boîte de disques. Après, tu t'appelles alternatif, indépendant, peu importe. Le but, c'était de pas ressembler à Téléphone. Pour moi, c'était l'horreur totale, la synthèse absolue entre la variété soporifique française et des guitares. Un produit parfaitement marketé, un peu rebelle, mais qui fait pas peur aux grands-mères. Le mouvement alternatif, c'était l'antithèse de tout ça. Les gens repartaient sur des bases qu'ils s'étaient créées eux-mêmes. Faire de la musique sans se soucier de plaire à Pierre ou Paul, avec un état d'esprit franchement libertaire. Il faut voir aussi qu'en 80, on sortait de 23 ans de droite. 23 ans. Nous, on mettait dedans le rejet du monde dans lequel on était, notre angoisse d'exister, nos frustrations et notre envie d'échapper à ce système qui rend quasiment tout impossible. On voulait aller chercher plus loin que la revendication politique ou syndicale. L'erreur d'exister, le mal de vivre. On a essayé de faire passer ça avec un humour au troisième degré, un humour noir vraiment décapant. On voulait détourner toutes les icônes. Pour moi, la Vierge Marie ou Mamie Nova, c'est exactement la même chose. On ne proposait pas de modèle pour former une grande organisation, nous. On dénonçait pour que les gens pensent par eux-mêmes et à partir de là, rebondissent pour faire quelque chose et créent leur propre univers. Comme une sorte de grande nébuleuse qui va se reproduire à l'infini, on n'était pas dans quelque chose de fédérateur pour dire aux gens « Voilà, c'est votre monde, maintenant il faut faire avec. Si ça vous plaît pas, alors il faut lutter. Sans quoi, acceptez et taisez-vous. » C'est donc... Fin de citation, exactement. Merci Vérole. Ce que je vais essayer de faire, me taire. Sauf que on va passer. Alors ça fait, on va bientôt se passer de la musique. Hein, je vous rassure, les amis. On va directement rentrer avec les Varum Joe. Alors Varum Joe, ça va être très très court parce qu'il n'y a pas Varum Joe dans Nyark Nyark. Il y a tellement de groupes que c'était impossible de mettre tout dans un seul bouquin. Mais je vais quand même vous présenter les Varum Joe en vitesse et on va s'écouter à quoi ça ressemble en vitesse aussi. Alors Varum Joe. Au départ, c'est Pascal Sabotier au chant, à la guitare Pierre, Gobillon et Nicolas. Au clavier, c'est Hervé Chevrier et Yann. Et à la basse, Olivier Bachelard. Le groupe, vient de la région parisienne. Ils sont formés en 81 et ils se sont séparés en 2010, si du moins ils sont séparés, ça je sais pas. Dans tous les cas, Dixit Wikipédia, l'ébauche de Varum Joe s'appelait Von Cochrane. Leur style, c'est un mélange de dérision et de clichés très visuels avec des textes en français et de punk rock saccadé avec prédominance de la boîte à rythme qui donne au groupe une base rythmique très typique. La marque de fabrique de Varum Joe, c'est un rock minimaliste, énergique, saccadé, percutant et efficace et facilement reconnaissable. Guitare saturée, son de synthé, inspiré par le premier album du groupe Devo ou Joy Division, boîte à rythme métallique et chant scandé. Les paroles s'inspire souvent de l'histoire du XXe siècle et plus particulièrement des périodes socialement troubles, mettant souvent en opposition le caractère absurde de celle-ci lorsqu'elle est ramenée à l'individu. Le groupe a su, dès leur premier maxi 8 titres, dont on va s'écouter d'ailleurs un extrait, créer un son qui lui est déjà très très personnel. Et le morceau que je vous propose, donc de cet album, de ce premier 8 titres qui s'appelle « Dans le blizzard » de Varum Joe, le morceau c'est « Datcha ». Je vais boire un coup.
Ça cache Berlin. Ils ont faim, ils manquent de pain. De désertion par millions. Le président a pris l'avion. Les Mongols arrivent à Paris. Se décider, je m'inscris au parti. Le couteau entre les dents. Pour le grand soir, je suis dans les temps. Au son du Kalachnikov, je pique les plans de Boris Karloff. Avec mes potes du Caucase, je fais des accases.
Pour aller d'abord combattre le bolchevisme, je suis Francis, et le Francis a été jusqu'à présent mouvement anti-bolchevique.
Voilà, Varum Joe, les aminches, le titre Datcha de Varum Joe, Dans le blizzard. Dans le blizzard, c'est donc leur premier album LP, 8 titres, il est sorti en 80 chez New Rose Records. New Rose qui est encore d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui ou peut-être plus, je ne sais plus, dans tous les cas qui a vécu quelques décennies New Rose, surtout comme distributeur. Donc voilà, alors en écoutant Varum Joe, eh ben on peut se faire la réflexion, on peut se dire il y a quand même des guitares, le chant c'est vrai, il est scandé badaba badaba bada, et puis surtout de la boîte à rythme derrière. Ça paraît déjà familier, même si un groupe que je ne nommerai pas encore, on verra ça à la fin de l'heure, il ressemble très très fortement, et Varum Joe a dû faire aussi partie des influences de ce groupe qu'on se diffusera de ce groupe surprise qui nous servira de conclusion pour cette grande épopée d'il y a 30 piges. Alors ce que je voulais, et là je ne lis pas, ça va faire du bien un peu, la question que je me posais un peu, c'est ah, la boîte à rythme, ça a quand même vachement d'importance, parce que on s'est écouté la semaine dernière Métal Urbain, dans lequel il y a toujours eu de la boîte à rythme. Varumjo, il y a toujours eu de la boîte à rythme, et puis pas mal de groupes aussi qui vont suivre par la suite ont utilisé la boîte à rythme. Alors la question que je me suis posée, c'est de l'utilité de la boîte à rythme dans le punk rock des débuts. Alors pourquoi c'est vrai autant de boîtes à rythme? Alors ça représente certains avantages. Alors déjà ça fait moins de bordel et moins de boucan dans le local de répète, ça pue moins sous les bras aussi, ça prend moins de place dans le coffre du camion ou de la bagnole, hein, ça c'est pas négligeable, t'as pas besoin de te coltiner le montage et le démontage de ta caisse, enfin de ta batterie du moins, sur scène, et t'as en plus pas de balance à faire pour régler tout le boxon entre la grosse caisse, le kick, la cymbale, la caisse et tout le merdier. Ensuite, ça pallie à la difficulté de trouver un batteur, ce qui n'est pas des moindres, surtout un batteur de bon niveau, ou du moins de niveau raisonnable, parce qu'à l'époque, hein, comme vous l'avez entendu, c'était chacun, ah bah tiens, toi tu fais du judo par exemple, toi t'es une belle gueule, tu feras bassiste, toi t'es costaud, tu feras de la batterie. Alors, déjà, à l'époque, un paquet de Zikos, en ont marre du combo rock'n'roll habituel, à savoir une gratte, une basse et une batterie, qui essaye de bosser dans d'autres directions rythmiques pour mieux s'en libérer. Chercher au-delà de ce qui se fait de manière conventionnelle pour mieux innover et créer un son inédit ainsi qu'une manière de faire qui soit totalement neuve. Si la techno n'existe pas encore à l'époque, il lui faudra encore quelques années avant d'émerger, et ce sont là, disons, les prémices de la musique punk et électronique, et qui sont d'ailleurs loin d'être incompatibles, surtout à l'époque, puisque tout est possible. Voilà, en ce qui concerne les Varumjo d'un côté, la boîte à rythme de l'autre, on va passer maintenant à un groupe qui s'appelle The Brigades. Alors, c'est bien The Brigades, et non pas les Brigades, parce qu'il y a eu les deux. Alors, The Brigades... à la différence des Brigades, qui eux étaient un groupe bordelais de la même période, The Brigades, ils viennent de Paris, sont formés en 81, séparés, en 89. On retrouve au chant Vlad Dialectix, à la guitare Kid Bravo, qui deviendra par la suite Kid Loco, à la basse Saveriu Chatterton et à la batterie Tony Aigri. Alors on va se lire. S'écouter une petite citation de Vlad Dialectix, qui était donc le chanteur des Brigades. Alors tout commence fin 81, c'est la première grosse vague punk en France qui se prépare, ce qu'on appellera plus tard rock alternatif, et c'est en même temps l'explosion des radios libres et l'apparition des premiers fanzines. Après un séjour sur Caen, je reviens sur Paris et je rencontre des gens qui faisaient des allers-retours sur Londres, qui squattaient, qui faisaient des fanzines. L'idée de départ des Brigades était simple. Si des groupes comme les Clash avaient continué à développer toute la richesse musicale qu'il y avait à l'époque, notamment avec leur mix punk-reggae, qu'est-ce que ça aurait donné? Comment développer les trucs nés de la richesse de 77, 4 ans après? On voulait un nom qui soit percutant, qui donne l'idée de quelque chose de combatif, et en même temps un nom qu'on comprenne dans plein de langues différentes. On s'était aperçu que les termes militaires se retrouvent dans plein de langues. Et puis le côté Brigade Rouge, ça nous faisait rire. On voulait que tout le monde comprenne immédiatement l'état d'esprit du groupe. Le nom plus l'étoile, on savait directement à qui on avait affaire. On était aussi attaché au côté critique, social, qui existait dans le punk anglais ou américain et qui était absent, à quelques exceptions près, dans le punk français médiatisé à l'époque. Les Brigades ont toujours été un groupe de la classe ouvrière, avec un discours assez militant, sans pour autant donner des leçons. Mais plutôt donner des clés par rapport à la situation telle qu'on la vivait, et inciter les gens à se prendre en main, à créer des groupes, faire des fanzines, à faire de la vidéo, à avoir une intervention sur le terrain social. On a réussi à être à la fois culturel, musical et politique. À l'époque, on est comme notre propre organisation politique. On réfléchit par nous-mêmes, on va décider de participer à des concerts contre le travail. On avait la chance au début d'avoir des squats ouverts ou jouer, ce qui palliait le manque de salles. c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire en France, cette unité politique, entre politique, culturelle, musicale et syndicale. Ici, tout est cloisonné. Si t'es musicien, on prend pas ta parole au sérieux, il vaut mieux laisser ça aux politiques, à des gens, des organisations qui savent, eux. Ici, si t'es dans un groupe, t'es saltimbanque. Ce cloisonnement est vachement néfaste. En Angleterre ou en Italie, par exemple, en tant qu'individu politique, social, ce brassage, il se fait de plein de manières beaucoup plus naturelles. Il apparaît normal pour les militants autonomes italiens, par exemple, d'organiser des concerts punk devant des usines. Ou en Angleterre, de faire des concerts de soutien pour les mineurs ou les postiers. C'est impensable en France. Jobless Generation, ça c'était le titre du morceau de The Brigades, issu donc de leur premier 45 tours, autoproduit, directos, qui s'appelait Riot and Dance, et sorti chez Rock Radicals Records en 82. Alors on va retourner dans les propos de Vlad Dialectics, qui était non seulement l'auteur et chanteur de The Brigades, mais qui a été aussi le créateur de Rock Radical Records. Donc, je cite Vlad. On a décidé de fonder le groupe fin 81, on a commencé à répéter début 82 et on diffusait nos cassettes sur les radios libres. Les cassettes nous ont permis de faire passer sur les ondes des groupes qui n'avaient pas encore enregistré de disques, ce qui était le cas de beaucoup. Un groupe qui avait fait une démo correctement enregistrée, s'y connaissait quelqu'un dans une émission, avait quand même beaucoup de chances de passer. On commençait à être un peu connu dans les fanzines, et du coup on s'est dit que ça serait bien d'avoir un disque. On n'envisageait pas de démarcher auprès des grosses boîtes, ça nous intéressait pas du tout, ni les labels indépendants naissants, car ceux-ci privilégiaient les groupes chantant en français. On a décidé assez vite que si on voulait sortir un disque, on allait monter notre propre label. D'où l'idée, avec le guitariste, de monter une association, Rock Radicals Records, et d'en faire notre label pour pouvoir sortir les disques des Brigades et éventuellement d'autres groupes comme nous qui faisaient face aux mêmes difficultés et qui n'avaient pas non plus envie d'aller démarcher les majors. Parce qu'autant en 77, les majors étaient un peu à l'écoute en se disant « on peut faire du blé », autant là, les conditions étaient vraiment draconiennes. En gros, ce qu'elles voulaient, c'était des groupes plutôt formatés New Wave, pas des groupes punk. L'association Rock Radicals Records a été créée au départ pour sortir les productions des Brigades et éventuellement les disques de copains. À l'époque, on avait tout un milieu sur Paris, avec des gens qui tournaient autour des Berrues, qui n'étaient pas encore Berrurier Noir d'ailleurs, avec Guernica, avec des copains de Kid Bravo. Le raisonnement était de lancer ce truc-là. Si on rentrait dans nos frais avec le premier 45 tours, essayer d'aider un autre, voire d'autres groupes à sortir aussi un 45 tours. Dans le label, il n'y avait pas que des gens du groupe, mais aussi quelques copains qui nous aidaient sur le financement. Tout le monde participait aux décisions, notamment sur le choix des productions. Notre parti pris était très anglophile. On privilégiait les groupes qui chantaient en anglais parce qu'on savait qu'au niveau de l'industrie et des autres labels, c'était le contraire qui était fait. Le discours ambiant était « il faut chanter en français ». On était ouvert sur le choix des styles musicaux. On a même failli sortir un groupe de reggae, c'est pour dire. L'idée était d'être assez ouvert par rapport à l'attitude punk et reggae en privilégiant le chant en anglais puisque de toute façon, il y avait de la place chez les autres pour les groupes qui chantaient en français. Politiquement, on choisissait des groupes qui avaient du contenu ou au moins une attitude. On n'allait pas relire les textes, mais en général, on travaillait avec des groupes qu'on connaissait, qu'on avait déjà rencontrés avec les Brigades. L'aventure Rock Radicals Records s'est arrêtée au moment du split des Brigades, quand Kid Bravo et Tony Aigri ont quitté le groupe. Kid Bravo voulait partir en solo et s'essayer dans la production avec Marsu et Philippe Baya. Ils ont décidé de fonder Bondage. Donc, fin de citation. Comme vous venez de le comprendre, comme moi, les amis, en fait, Rock Radicals Records, c'est le pré-label qui donnera Bondage par la suite, donc avec l'aide de Marsu et de Philippe Baya. Alors, voilà, concernant The Brigades, on a fait un bon petit tour et on va passer à un autre groupe. Alors là, les gars, c'est les gars et les filles, on va passer vraiment à un groupe complètement starbé et je pèse mon mot. Ce groupe-là, il s'appelle, ou du moins il s'appelait Lucrat Milk. Alors, c'est un petit peu tombé dans l'oubli et pourtant, c'est vraiment devenu un groupe mythique, un groupe culte. Alors, Lucrat Milk, ils sont de Paris. Ils sont formés en 77, 78, officiellement, vous allez voir, en 81. Et ils se sont séparés dès 84. Alors, c'était un groupe, on peut appeler ça post-punk. C'était déjà du post-punk. Ouais, dès 77, 78, c'est fort. Avec un gros côté arty, A-R-T-Y. Parce qu'ils sortaient tous, en fait, d'école d'art. Ces gens-là donc qui étaient à la basse Lowell Lombric, au saxophone Masto Low Cost, ça va vous dire certainement quelque chose, les amis, à la batterie Raoul Gaboni, salut à toi le Gaboni, et au hurlement, au chant, Nina Childress, ou Childress, hein, je sais pas comment on dit, et également Hell No, qui n'est pas complètement un inconnu non plus. Alors, oula, j'avale ma salive de travers. Alors, on va écouter un petit peu ce qu'on va nous dire Lol et Masto. Alors, surtout Lol, d'ailleurs, il me semble bien. Alors, la grossesse a été super longue. On a essayé pendant longtemps de se trouver une activité commune avec Masto. Il était photographe, j'étais dessinateur. On avait des nuits plus blanches que nos nuits. On se voyait tout le temps pour faire n'importe quoi, grimper à une statue, colorier de l'eau, faire de la mousse. Tout était autorisé, les règles du jeu s'inventaient au jour le jour. Et un jour, on a inventé qu'on allait inventer un groupe. Ça voulait pas dire copier, ça voulait dire inventer, créer tout. On a commencé sur un pauvre piano désaccordé, à faire des phrases qui nous faisaient rire, sans prétention, sans orchestre, sans instrument. Ça, c'était en 77-78. Masto, à l'époque, utilisait le mot « lucrate ». Pour dire qu'il avait chouré des trucs. Genre, lucrate, ça a été une journée lucrative. Une nuit, on a fait de la récup. On avait fait de la récup, Parc Montsouris, dans une réplique du palais du prince du Maroc. C'était complètement en ruine. Et avant que ça s'écroule, on a récupéré des carreaux qui étaient jolis et qu'on voulait pas laisser au vandalisme. On a eu une grosse nuit de chantier. Et au petit matin, on a volé du lait devant une épicerie qui était pas encore ouverte. Et comme on voulait pas dire « on est des braqueurs de palais », on a dit « on est des lucrates milk ». Très ostensiblement punk, et il y a... très ostensiblement punk, quoi. Et il y a eu une réaction... Attends, j'ai l'impression... Non, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Ça m'est pas arrivé la semaine dernière, fallait bien que ça arrive cette fois-ci. Alors donc, jure en bobine, on a inventé le nom, voilà. On a inventé le nom, le logo, le lettrage, et on a commencé à bombarder les murs de Paris, de la banlieue, avec des Lucrate Milk, très ostensiblement punk. Là, voilà, il y avait deux fois Lucrate Milk, presque au même endroit, d'une ligne à l'autre, excusez-moi. Et puis, du coup, avec tous ces logos, il y a eu une réaction. Lucrate Milk, ça a l'air vachement bien. Il y en a même qui connaissaient avant que ça existe, qui les avaient déjà vus en concert. Un super groupe anglais, il paraît. Il y avait déjà une légende avant qu'on ait commencé. J'ai rencontré Nina aux Arts Déco, je l'ai branchée, surtout en fait pour être mannequin de photos pour Masto, parce qu'elle était très jolie et qu'elle avait une belle présence. Quand on l'a trouvée conne, on se l'est dit et on a décidé de l'acheter. Et elle a fait « Eh, mais je sais aussi crier !» Et elle nous a fait un putain de cri qui nous est resté. Voilà ce qu'on cherchait pour illustrer notre musique, qui n'existait pas encore. Là, on était trois, il nous fallait une rythmique, et on a fait appel à Gaboni. Il nous fallait un batteur, et Gabo était costaud, il faisait du judo, donc ça a été lui. Et le pote de service, qui a fait de la radio, du fanzina, et qui connaissait quelques groupes, s'est retrouvé catapulté manager, parce qu'il avait la tchache, ça, c'est Marsu. On n'était pas musiciens et on a choisi l'instrument qu'on aimait le moins pour réagir, se le rendre agréable. Pour moi, la basse, je la sentais, mais je ne l'entendais pas. Pour Masto, le sax, c'était forcément une connerie de jazzeux qui était obligé de faire des trémolos pour les films de cul. Il voulait qu'il y ait une attaque, un son de paquebot. La Biennale de Paris, c'était notre premier gros concert, avec seulement un 45 tours qu'on avait enregistré après trois répètes. Il n'était pas mixé, on ne savait même pas que ça existait. Et on ne s'est pas posé la question de savoir si ça allait plaire ou déplaire. Le but, c'était de le faire. Hop là. Attention, morceau culte. I love you, fuck off. Vous reconnaîtrez d'ailleurs peut-être la... Le timbre. Le timbre d'Elno. Allez, c'est parti, Lucrate Milk.
I'm radio, faut qu'on...
le micro, Matt, mets-moi le micro. Ah oui, c'est bon, hein, mais c'est court. Lucrat Milk, je vous ai dit, hein, c'est vraiment très très starbé. Et I Love You Fuck Off, ça reste un des morceaux quand même qui est le plus audible du répertoire de Lucrat Milk. Alors, Alors, attends, que je retrouve un petit peu mes petites notes. Lucrat Milk, donc, I Love You Fuck Off, c'est le titre du morceau. Le titre du disque, c'est leur, un extrait de leur deuxième 45 tours EP qui contenait 4 titres. Il s'appelle ce deuxième 45 tours Ne Plat Relou et il est sorti de manière complètement autoproduite en 83. Donc là, vraiment, on arrive un petit peu à la conclusion aussi de notre émission, puisque, voilà, on est en plein dans la bonne année, il y a 30 piges. Alors, on va reprendre encore une petite citation de l'eau, les mastos, qui vont nous expliquer encore un petit peu Lucrat Milk. Alors, je cite, les gens qui venaient voir des quepons, alors vous allez voir, hein, là, il y a des anecdotes qui valent leur pesant de cacahuètes. Et vraiment une bonne, une bonne mise en situation de l'esprit de Lucrat Milk à l'époque. Alors donc, je cite, les gens qui venaient voir des quepons, ils tombaient là-dessus, donc sur le groupe. Et ils trouvaient que la musique qu'on faisait, c'était de la musique de majorette ou de fanfare rigolote. Ils s'attendaient à un truc beaucoup plus noir. Nous, on prenait le contre-pied. Dès que les gens avaient des crêtes, des piques noires, nous, on était blonds frisés. Surtout, ne pas arriver à un uniforme. Au départ, le punk, on l'inventait avec des gants MAPA et des palmes, et on voyait pas pourquoi d'un seul coup, c'était rangers et ceintures à clous pour tout le monde. Les stéréotypes, on voulait les casser, comme la musique. Basse, batterie, guitare et oi oi oi, on laissait ça aux autres. C'était plutôt fucking pacifiste que no war. La meilleure provo, c'était de se moquer de soi-même, être ridicule en quepon. Au début, les insultes, c'était les insultes en concert, c'était bouffon, pédé, clown. Et on a poussé le truc d'être des bouffons, pédé, clown, avec des caleçons longs, des jupettes, des boucles d'oreilles vache qui rit. On poussait ça vraiment au paroxysme pour que ça fasse marrer les gens, au moins. Le côté agressif sans humour, ça me dérange. Je préfère être une victime d'emblée que menaçant. Mais surtout avec l'esprit puéril, le nananaire. Dans les comptines, on a le droit de tout faire, tout est possible. On était des gamins, on avait 20 ans, mais on était des adolescents attardés. On était rarement clairs. En répète ou sur scène, on s'arrangeait pour avoir la même dose de n'importe quoi, pour être le moins dans le même tempo, mais dans le même état d'esprit. C'était bordélique. Il y avait Elno, qui était mascotte, qui lançait « I love you, fuck off ». On avait des costumes pour faire les imbéciles, des pauvres mises en scène. On avait des morceaux très courts, on n'avait pas le choix, on se fatiguait vite, on ne pouvait pas les terminer. Du coup, nos concerts étaient finis en un quart d'heure. J'étais le plus nul des quatre nuls et j'étais incapable de me greffer sur une musique. Donc, j'arrivais avec 2-3 idées de lignes de basse que je faisais tourner et si jamais ils arrivaient à rentrer dessus avec leur prout prout prout, digi ligi digi et tsabada, on faisait un morceau. J'étais l'obligatoire point de départ, j'avais pas l'oreille musicale, j'ai un peu chopé le tempo à l'époque parce qu'on répétait beaucoup, mais si j'étais pas accordé, je m'en rendais même pas compte. Où je pouvais me tromper de corde. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave, je joue. Mais si tu connais pas la règle, eh ben, tu triches. Les paroles étaient toutes en anglais, à part 2-3 morceaux. On parlait d'égoïsme, de fascisme, de guerre. Ce que je trouve aujourd'hui assez pertinent, c'est que c'était pas du tout des textes dénonciateurs. On s'appropriait la violence, on s'appropriait l'égoïsme, on s'appropriait la concurrence. On le revendiquait, on le clamait, on le hurlait. Je trouve ça bien parce que ça a un double impact. Ça met les autres hyper mal à l'aise. Je trouve que c'est une façon de s'exprimer pertinente, en tout cas bien plus que la dénonciation convenue. Le milk, le lait, c'est l'antipoison. Tous les autres jouaient au poison et nous, on jouait à l'antipoison. Tout était noir, on était blanc. Il y avait toujours l'idée d'un malaise. Soit une musique un peu épileptique, ou dire tiens, on va faire chier le public, on va faire tourner une boucle tant que le public ne réagit pas. Comme si un disque était rayé et qu'il fallait taper dessus. On avait aussi une reprise de Cockney Rejects. Ah, Cockney Rejects. Pourtant, je l'ai répété, celle-là, c'est impossible à dire. Donc, Cockney machin, façon hooligan, on répétait 5 fois. Qui c'est les plus forts, évidemment, les skins. Et ils étaient concernés et gueulaient avec nous, les skins. Et la 6e, qui c'est les plus cons. On était contents, on avait fait une blague. On voulait de la réaction. On a le droit de pas aimer, on a le droit de nous cracher dessus parce qu'on fait pareil. On sort ce qu'on a. Après, vous en faites ce que vous voulez. Aucun calcul. Plaire, ça nous disait rien. Je sentais qu'on n'allait pas durer de toute façon. Entre les caprices de Nina, les prises de tête de Masto, la peur de tourner en rond, d'être inscrit dans notre style, de plus faire ce qu'on avait envie, j'ai arrêté le groupe de peur qu'on split. Je voulais pas que ça m'arrive de la part de quelqu'un d'autre. Je voulais être décisionnaire. Ça fait moins mal. Les autres m'ont dit « Ah ouais ?» Pourquoi pas? On était aussi très appréciés par les jazzeux, qui trouvaient qu'on avait une démarche très intéressante et ça nous gonflait que des intellos nous trouvent du sérieux. Comme si on avait été adultes et sages. Du coup, après le split, on s'est retrouvés avec Elno et Masto dans une autre guerre des boutons, avec Berrurier, qu'on a repeint en noir. Attends mon Matt. Attends. Du coup, logiquement, nous voilà avec Berrurier Noir pour conclure ce voyage dans le temps qui a quand même duré de 75 à 83. 83, c'est le premier concert dans le squat artistique Palikao de Berrurier Noir. Berrurier avait déjà existé déjà un petit peu avant, mais ça a été vraiment le premier concert à cette époque de Berrurier Noir. Alors Berrurier Noir de Paris, formation en 81, séparation le 11 novembre précisément, 11 novembre 89, puis reformation de 2003 à 2006. Au chant, les Berrus, c'est au chant et au texte, c'est Fanfan évidemment, et Laurent à la guitare, plus à la programmation de la boîte à rythme. Et la boîte à rythme, c'est la mythique Electro Harmonix DRM-16, figurez-vous. Et nous allons donc nous écouter, parce que 83, c'est pas seulement le premier concert de Berrurier Noir, c'est aussi le tout premier enregistrement d'un maxi, un premier maxi 45 tours EP, qui s'appelle Nada. Alors, Nada et Glauco, c'est parce que c'est un maxi 45 tours de 8 titres. Pareil, comme je vous le disais, split avec la face A pour les Berrus et la face B en split avec Guernica. Alors, et pour être précis d'ailleurs, ce disque-là, il est sorti en septembre 83 chez Shin Produc. Et il a été réédité en 85 par Bondage Records. Avec des morceaux supplémentaires pour que l'album soit vraiment concept. Et c'est les extraits que je vous propose d'écouter avec Nada 2, Amputé, et Nada 3. On est dans le concept Berrurier et c'est l'apparition de tout un truc. Ouah, vas-y mon Matt.
Dans les camps de concentration. Blocage. Service torture, service mental. Service secret, service fasciste. En Sibérie occidentale. Torture mentale. Dans les pays sous-développés, la dictature s'est imposée. Les militaires sont au pouvoir. Quand rien de beau à voir. Service torture, service nada.
Papa, la botanie m'a mangé un trident. La tête, la Attendez.
Voilà les amis, après ces quelques années de maturation et d'expérimentation, la scène punk fédérée commence doucement mais sûrement à prendre conscience d'elle-même et se sent de plus en plus puissante à force d'essaimer à tout va. Mais ne manque au tableau qu'un ultime élément qui permettra de mettre le feu aux poudres et de passer à la vitesse supérieure, l'explosion d'un groupe qui déclenchera la mise à feu. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais c'est tombé sur Berruria Noir et qui va devenir ce phénomène incontournable autour duquel tous les acteurs du mouvement alternatif vont enfin apparaître au grand jour. Avec les Berrues, plus rien ne sera jamais plus comme avant. Mais c'est une autre épopée mythique dont je vous conterai les aventures extravagantes à tout point de vue dans plusieurs autres émissions, parce qu'il va falloir au moins ça. Suite donc aux prochains épisodes, les amis. Hop là ! Torture mentale ! Torture mentale ! Torture, torture ! Torture mentale ! Oh bah mon Dieu ! Ah bah oui, j'en peux plus. J'en peux plus vivement qu'on se passe de la musique les semaines prochaines, parce que là j'ai ma dose. Voilà, je suis super content qu'on ait pu se faire ces émissions, parce que ça valait vraiment le coup de les faire. Ça m'a demandé une grosse documentation, parce que cette époque, je la connais mal, mais c'était quand même... je crois que ça fait partie de ma responsabilité aussi, en tant qu'animateur d'émissions alternatives, de refouiller un petit peu et de vous faire découvrir, redécouvrir le contexte de cette époque primitive et primordiale. Voilà. Alors, je recite ma source, parce que j'ai oublié la semaine dernière de la reciter. Toutes les citations qu'on a pu s'écouter ensemble dans cette émission et la précédente, c'est dans Nyark Nyark, un bon gros bouquin, fragment des scènes punk et rock alternatif en France de 76 à 89, par Arnaud Rudeboy chez FZM. Alors, il y a plein de groupes qui sont tombés à la trappe, mais non moins importants et impossible de tous en parler, mais ils apparaissent tous à cette période. Les Porte-Manteaux, Pigalle, Panic, Joint de Culasse, Lyra, Dawal 7, Camera Silence, N-Brigade, 13ème Section, FMR, Wunderbar, Orchestre Rouge, Reich Orgasm, Bulldozer, Dogs, SS20, Les Cambronnes, Les Collabos, Colérate, Strychnine, Verdun, Kidnap, etc., etc., etc. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté Émission Censurée. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. C'était le Mat à la technique et merci mon poteau. Et j'ai pas reçu de SMS de JC ce soir. Et c'est normal, il était juste dans l'aquarium en face. Et bon anniversaire Hugo. En attendant que nous nous retrouvions la semaine prochaine, vive la résistance, vivement la grève générale et la révolution mondiale. Vive le rock libre d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Merci. Bonsoir.